les portes des négociations nucléaires ne resteront pas éternellement ouvertes, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Le premier ministre israélien a accepté de mettre en pause le processus d'adoption de la réforme de la justice en cours d'examen au Parlement et grève en France, le musée du Louvre bloqué. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi soir 27 mars dans une interview avec la chaîne d'information Al Jazeera que les portes des négociations nucléaires ne resteront pas ouvertes à jamais. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré lundi soir qu'un plan avait été proposé au Parlement iranien pour fixer une échéance aux négociations nucléaires et que la porte des négociations ne resterait pas éternellement ouverte. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que l'Iran était engagé à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA. Amir Abdollahian a par ailleurs affirmé que le Qatar procédait toujours dans la bonne direction et qu'il avait joué un rôle constructif dans le domaine de l'échange de prisonniers et de l'accord nucléaire. Le dernier cycle de négociations pour la levée des sanctions s'est tenu à Vienne en août dernier, mais il a été interrompu depuis lors. Les analystes disent que certains facteurs tels que la pression du régime sioniste, les désaccords avec le Congrès et les problèmes internes aux États-Unis ont été ces derniers mois à l'origine de la réticence de l'administration Biden à retourner au plan global d'action conjoint. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que la République islamique ne connaissait aucune limite en matière d'expansion des relations avec les pays voisins. Ali Chabrani a fait ses remarques lors de sa rencontre du lundi 27 mars avec Mohamed Ben Abdelaziz Al Khulaifi, vice-ministre des Affaires étrangères du Qatar, chargé des affaires régionales, qui se trouve actuellement à Téhéran. Dans le cadre de la diplomatie de voisinage poursuivie par l'administration du président iranien Raisi, le développement des coopérations avec les pays voisins est la priorité absolue de l'Iran dans les relations étrangères et nous ne fixons aucune limite à cet égard, a-t-il souligné. Saluant les efforts efficaces déployés par l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et son gouvernement pour aider à résoudre les problèmes régionaux et internationaux en coopération avec l'Iran, Ali Chabrani a déclaré que des relations fraternelles et constructives entre Téhéran et Doha peuvent servir de modèle général pour la promotion des liens avec d'autres pays de la région. Soulignant le niveau des relations entre les deux pays dans différents domaines, M. Chabrani a fait part de la nécessité de lever les obstacles existants afin d'améliorer les relations Téhéran-Doha dans plusieurs domaines, dont des coopérations commerciales, la mise en œuvre des projets d'infrastructures ainsi que les interactions politiques des deux pays. Le responsable qatari, pour sa part, a salué l'accord conclu entre l'Iran et l'Arabie saoudite début mars pour la reprise de leurs relations, le considérant comme une étape importante pour le renforcement de la stabilité et de la sécurité régionale. Al-Khulaifi a mis l'accent sur la promotion des échanges commerciaux entre le Qatar et l'Iran et la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Plus tôt lundi et avant sa rencontre avec M. Chabrani, il a tenu une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, plutôt axée sur les questions régionales et internationales. L'Iran a condamné avec véhémence la récente profanation du noble Coran par un groupe d'extrême droite danois, tout en dénonçant le silence des soi-disant défenseurs des droits de l'homme vis-à-vis de telles mesures. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait ses remarques lundi 27 mars, moins d'une semaine après que le groupe extrémiste et anti-musulman connu sous le nom de Patriot Tern Garlaev a brûlé une copie du Coran devant l'ambassade de Turquie à Copenhague. Mettant en garde contre le nombre croissant d'insultes à l'encontre du livre sacré des musulmans, Kanani a dénoncé le silence des soi-disant défenseurs des droits de l'homme face à de telles mesures. Ces mesures ne font qu'ouvrir la voie à l'incitation à la haine et à l'extrémisme et fomenter la violence, qui sont considérées comme un risque pour la paix, la coexistence pacifique entre les humains et la sécurité mondiale, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne. Il a ajouté qu'ignorer les récentes insultes contre l'islam au nom des droits de l'homme était tout à fait contraire au principe universel des droits de l'homme. La République islamique d'Iran ainsi que d'autres pays musulmans attendent des autorités danoises qu'elles empêchent la répétition de tels spectacles offensants sous prétexte de liberté d'expression et qu'elles assument leurs responsabilités pour ne pas autoriser de tels actes sacrilèges et d'incitation à la haine à se produire, a conclu Kanani. Ces remarques interviennent alors que les cas des insultes contre l'islam et le noble Coran sont en augmentation en Europe. De tels actes ignobles se sont ces derniers mois réitérés sur le sol de certains autres pays européens et cela a entraîné une vague de protestations et de condamnations de la part des pays musulmans du monde. Sous la pression croissante de violentes manifestations dans les territoires occupés d'Israël, le Premier ministre Netanyahou a accepté lundi de mettre en pause le processus d'adoption de la réforme de la justice en cours d'examen au Parlement. Selon un communiqué publié lundi 27 mars par le parti d'extrême droite, Jewish Power, à l'issue d'une réunion entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Sécurité intérieure, le processus de discussion sur les réformes controversées sera retardé jusqu'au mois prochain. Ils ont également convenu de créer une nouvelle force rattachée au ministère de la Sécurité. D'autre part, les médias sionistes ont annoncé que Tamir Bardo, l'ancien chef du Mossad, avait appelé à la démission immédiate de Netanyahou. De même, le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré « Nous n'avions jamais vu de menaces extérieures et de conflits internes d'une telle ampleur ». Suite aux protestations contre les décisions du cabinet d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, une vague de grève a balayé la Palestine occupée. Les protestations contre les décisions du cabinet de Netanyahou se sont poursuivies lundi et ont pris des dimensions plus larges. Dès lundi matin, aéroports, ports maritimes, compagnies aériennes, compagnies d'électricité, universités, cinémas, hôtels et grands magasins ont rejoint les grèves. Avec la grève des employés de la compagnie aérienne El Al et des employés de l'aéroport, les vols internationaux de l'aéroport Ben Gurion ont été complètement arrêtés. 73 000 passagers sont donc confrontés à la possibilité d'annuler leur voyage. Les portes du musée du Louvre sont bloquées depuis lundi matin 27 mars par des salariés du musée opposés à la réforme des retraites. Plusieurs d'entre eux ont fait irruption dans l'enceinte du célèbre joyau culturel français. Des protestataires ont fait irruption dans les couloirs du musée pour signifier leur rejet de cette réforme très décriée, adoptée le 20 mars après le recours au 49.3 par la première ministre et le rejet de deux motions de censure à l'Assemblée nationale. La CGT Culture, la CGT Spectacle, l'Union fédérale des syndicats de l'État CGT, la CGT Livre et l'Union départementale CGT de Paris participent à cette action avec les personnels du Louvre en grève, a annoncé un communiqué. En raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n'est pas en mesure d'être ouvert en ce début de matinée, a annoncé de son côté sur Twitter l'emblématique centre culturel parisien. La Joconde aussi, elle est en grève, a ironisé dans un tweet la CGT de la Bibliothèque nationale de France. Le 23 mars, plusieurs lieux culturels de la capitale française et des environs avaient été fermés aux touristes. Les 18 chars de combat Léopard 2, promis par l'Allemagne pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, sont arrivés en Ukraine, a annoncé le lundi 27 mars le ministère allemand de la Défense. L'Allemagne a accepté en janvier de fournir les chars, considérés comme parmi les meilleurs de l'arsenal occidental, surmontant les craintes concernant l'envoi d'armes lourdes qui, selon Kiev, sont cruciales face à la Russie, mais que Moscou considère comme une provocation dangereuse. « Je suis sûr qu'ils peuvent apporter une contribution décisive sur le front », a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, dans un tweet. Outre les 18 chars, 40 véhicules de combat d'infanterie allemands Marder et deux véhicules blindés de dépannage ont également atteint l'Ukraine, a indiqué une source de sécurité. L'armée allemande a formé les équipages de chars ukrainiens ainsi que les troupes affectées à l'exploitation des véhicules Marder pendant plusieurs semaines dans le nord de l'Allemagne. Hormis les véhicules allemands, trois chars Léopard fournis par le Portugal ont également atteint l'Ukraine, a indiqué la source de sécurité. Le ministre allemand de la Défense estime que la guerre en Ukraine ne prendra pas fin de si tôt, a rapporté le 14 février le service en langue ukrainienne du média allemand Deutsche Welle. Il n'y aura pas de fin à court terme à la guerre, a-t-il déclaré avant une réunion avec ses homologues de l'OTAN à Bruxelles le 14 février. Lors d'une visite surprise à Kiev le 7 février, Boris Pistorius a annoncé que l'Ukraine recevrait plus de 100 chars de combat Léopard 1 de l'Allemagne et de deux autres pays européens. L'envoi de chars allemands en Ukraine a lieu après des mois de discussions et de disputes entre les pays occidentaux. L'Allemagne s'était opposée à l'envoi de ces chars en Ukraine depuis le début de la guerre. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La Russie peut détruire les États-Unis en cas de menace. La Russie dispose d'une arme unique capable de détruire n'importe quel adversaire, y compris les États-Unis, en cas de menace pour son existence, a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev. Il a commenté les récents vols de bombardiers stratégiques américains près des frontières russes qui simulent des frappes de missiles contre des cibles en Russie. Le 12 mars, le bombardier stratégique américain B-52H Stratofortress a survolé les eaux internationales de la mer Baltique. Selon Flight Radar, l'aéronef a pénétré dans l'espace aérien au-dessus du golfe de Finlande avant de manœuvrer près de la frontière russe et de quitter l'espace aérien estonien. Ensuite, deux aéronefs s'approchant de la frontière russe ont été détectés le 20 mars alors qu'ils survolaient la mer Baltique. Les deux appareils ont été identifiés comme étant des bombardiers stratégiques B-52H de l'armée de l'air des États-Unis. Il est à noter que le président russe Vladimir Poutine a annoncé samedi 25 mars que Moscou prévoyait de déployer ses armes nucléaires tactiques à Minsk sans violer ses engagements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Il n'y a rien d'inhabituel ici non plus. Les États-Unis font cela depuis des décennies, a dit Vladimir Poutine. Ils déploient depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs pays alliés. A-t-il noté, précisant que Moscou ne transférait pas le contrôle de ses armes à Minsk. Il n'a pas pourtant précisé quand les armes seraient transférées en Biélorussie. Dans la foulée, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré dimanche 26 mars que l'Ukraine a réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour contrer le chantage nucléaire de la Russie. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que Kiev a considéré cette décision de Moscou comme une action provocatrice et a demandé au groupe T7, G7 et à l'Union européenne d'avertir Minsk des conséquences d'une telle action. Déclarant qu'il n'y avait aucune preuve de l'utilisation des armes nucléaires par la Russie qui obligerait Bruxelles à changer de position, un responsable de l'OTAN a assuré que l'Alliance Atlantique suivrait de près les mouvements russes en Biélorussie. Pour ce qui concerne les évolutions qui ont lieu sur le terrain, les forces militaires du groupe Wagner ont pris le contrôle d'une usine de transformation de métaux dans la région de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Des sources d'information russes ont annoncé dimanche 26 mars que les forces ukrainiennes avaient pris refuge dans l'usine située dans la région Azov, dédiée aux métaux non ferreux. Dans ce droit fil, l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, basé à Washington, a annoncé que les forces russes ont poursuivi leurs attaques terrestres à l'intérieur et autour de la ville de Bakhmout. Après avoir contrôlé la partie orientale de Bakhmout, les forces du groupe Wagner ont cherché à avancer vers la partie occidentale contrôlée par les forces ukrainiennes et à fermer les dernières voies d'approvisionnement ukrainiennes à l'ouest. Les responsables pro-russes à Donetsk ont déclaré que 4 civils avaient été blessés à la suite des bombardements ukrainiens contre la région de Donetsk.